vous offre des garanties réellement adaptées à vos besoins, sans délai d'attente et des remboursements directs auprès de professionnels de santé.
AFA Assurance, parce que votre santé mérite ce qu'il y a de meilleur. AFA Assurance,
01 55 85 07 45.
55 85 07 45.
Radio Notre-Dame.
Aujourd'hui, l'Église.
Nous avons aujourd'hui un bon guide pour nous plonger dans un univers obscur, celui des hérésies. Le père Pierre Descouvement est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes auteur de ce dernier ouvrage, Peut-on croire à la Providence, aux éditions de l'Emmanuel. Et puis vous participez à ce numéro de mensuel Il est vivant, qui consacre son numéro du mois de mars à ce titre. Faut-il avoir peur des hérésies? C'est le dossier donc du mois de mars. Hérésie, le terme est un peu désuet. Et pourtant, vous allez tout de suite comprendre, auditeur, comment aujourd'hui, les contestations actuelles ne sont parfois qu'une résurgence d'hérésies très anciennes. Faut-il avoir peur des hérésies? C'est une émission en partenariat avec ce mensuel Il est vivant. Sans suspense, père Descouvement, vous répondez à cette question. Faut-il avoir peur?
Eh bien, il ne s'agit pas d'en avoir peur puisque nous avons la foi, mais c'est vrai que les hérésies ont contribué à déstabiliser beaucoup de chrétiens. Et nous verrons en cours de route quelles sont sources de malaise. Et finalement, un hérétique, c'est quelqu'un qui nous supprime une bonne partie de notre joie. Car nous verrons que notre joie, c'est de croire à des mystères. Si Dieu nous les a révélés, c'est que c'est une bonne nouvelle. Et les hérétiques sont toujours des gens qui ont du succès parce qu'ils suppriment un mystère.
Oui, on va voir d'ailleurs que c'est très paradoxal parce que souvent les personnes qui professent des hérésies, en gros, connaissent du succès.
Ah oui, bien sûr, oui. Et pourquoi? On le dit tout de suite, non? Pourquoi
oui,
pas
bah oui, 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 pourquoi
parce
pas.
Parce que hérésie, c'est un mot grec qui veut dire choix, hérésis. L'hérétique, c'est quelqu'un qui choisit un aspect de la bonne nouvelle en supprimant l'autre. Et on dit, c'est un gars qui simplifie. Le grand mystère, c'est que les mystères de la foi se présentent toujours sous forme de contradictions apparentes. Un seul Dieu en trois personnes. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Nous sommes libres et pourtant Dieu mène le monde. Celui qui professe une hérésie, vous dit « je vais vous expliquer ». Et on se précipite sur ce gars qui supprime un mystère.
Oui, mais alors à ce moment-là, on n'a plus envie de rien dire à ce compte-là. Il faut expliquer malgré tout.
Bon,
alors, c'est pas parce que le mystère est mystère.
C'est-à-dire qu'il faut une bonne fois comprendre que Dieu ne pouvait faire. Dieu est infiniment simple, mais pour nous montrer, pour nous révéler la profondeur de son être, il est obligé d'employer des formules apparemment contradictoires. Et cette contradiction énerve. Et elle énervera toujours.
Exemple.
Un seul Dieu en trois personnes. Arius a eu un succès fou au début du 4e siècle quand il a dit « je vais vous expliquer Jésus ». Jésus, c'est tout simplement quelqu'un qui a compris que nous étions tous enfants de Dieu. Il l'a exprimé d'une façon très simple. Donc, il supprimait à la fois le mystère de l'incarnation et le mystère de la Trinité. Vous savez que l'Église a failli disparaître au 4e siècle parce que la plupart des évêques du Gaule, par exemple, ont adopté cette pensée qui simplifie le mystère de Jésus.
Et on reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur cette figure d'Arius et puis aussi celle de Hilaire de Poitiers qui s'est élevé. C'était un évêque français. En tout cas, quand on parle d'hérésie, c'est vrai que ça nous interroge par rapport à la relation qu'on entretient avec la tradition. Tout ce patrimoine, ce trésor finalement d'intelligence, de confrontation, de prière au cours des siècles, 2000 ans d'histoire de l'Église.
Oui, alors vous faites peut-être allusion aux cathares qui ont... Non, c'est ça
La question c'est d'abord de savoir précisément que la tradition, c'est vrai que c'est souvent un grand mot qui fait peur aujourd'hui, qui suscite plus de,
bon,
de suspicions, de doutes.
Si vous voulez, pour avoir une foi solide, il faut oser croire, ça serait une autre émission à faire, que Jésus a donné à son Église le pouvoir d'interpréter l'Évangile dans les questions difficiles. Aujourd'hui, même les scientifiques remettent en question leur grand postulat. L'une des grandes difficultés pour beaucoup de gens d'aujourd'hui, pas forcément de grands intellectuels, comment se fait-il que l'Église ne remet jamais en question ses définitions dogmatiques? Comment se fait-il qu'elle croit pouvoir être infaillible? Si on ne croit pas à l'infaillibilité de l'Église, je n'ai par exemple aucune raison de faire la génuflexion devant le très Saint-Sacrement. Parce que ce n'est pas évident que je doive prendre à la lettre « ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang », alors que dans d'autres passages de l'Évangile, de la Bible, il est tout à fait normal de considérer que ce sont des symboles. Quand on dit que Dieu est un roc, une forteresse, un bouclier, un soleil, ce sont des comparaisons. Pourquoi je ne prends pas comme un simple symbole l'Eucharistie, ce que pensent d'innombrables frères protestants qui n'osent plus croire au réalisme de la présence réelle? Je reconnais que si je ne crois pas à l'autorité doctrinale de l'Église, je n'ai aucune raison de prendre au sérieux tous ces passages de l'Évangile.
Et l'infaillibilité, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à croire, enfin, du moins c'est-à-dire à adhérer qu'il faut, à cette infaillibilité-là.
Il faut essayer de lire les Évangiles, de voir si, oui ou non, historiquement, Jésus a confié ce pouvoir à ses apôtres.
Donc c'est aussi de la responsabilité des chrétiens d'aujourd'hui, d'une certaine manière.
Oui, croire à la tradition, c'est croire tout simplement qu'il y a des vérités que l'Église ne remettra jamais en question.
Oui, Père Descoumont, vous évoquiez tout à l'heure les cathares, mais c'est vrai que quand on parle d'hérésie, on associe assez facilement aujourd'hui aux cathares, à l'époque où on brûlait les hérétiques après les enquêtes de l'Inquisition. C'est vrai que les cathares, on en parle beaucoup, notamment parce qu'on fait la promotion du tourisme en ce qu'on appelle le pays cathare aujourd'hui. Mais ça révèle bien finalement le rapport qu'on a à la manière dont on a décrété ou l'Église a décrété des hérésies.
Oui, c'est-à-dire que
on a peut-être plus de sympathie, presque d'une certaine manière, pour les cathares que pour... je force le trait, mais...
Les cathares, c'est quelque chose de très spécial, parce que vous savez que c'est Saint-Louis, Louis IX, qui a stoppé l'hérésie cathare, qui a duré 5 siècles en Europe. C'était une véritable église parallèle. Et s'il n'y avait pas eu la rigueur de Saint-Louis qui a obligé le comte de Toulouse à faire amende honorable à Notre-Dame de Paris, l'hérésie cathare aurait duré très longtemps.
Bon, alors... Bon, combien de morts et combien de personnes, combien de souffrances?
Je laisse aux historiens le soin de le dire. Hein. Mais surtout que cette hérésie cathare est la répression de l'hérésie cathare a été l'origine de la suppression de la langue d'oc. Les comtes du nord de la France ont supplanté le comte de Toulouse et du coup l'unité linguistique de France s'est faite à cette occasion-là. Et alors les gens du Midi maintenant aiment revendiquer leur langue et je crois que ça suit. Et puis alors il y a tous les châteaux cathares.
Oui, notre époque contemporaine aurait plutôt tendance à prendre fait et cause pour les victimes, considérer les hérétiques comme des victimes de l'Église ou de la violence religieuse.
Oui. Alors il faut savoir que l'hérésie cathare est quelque chose d'énorme. C'est un mépris profond pour le corps. Hein, Dieu n'a pas. C'est un Dieu mauvais qui est à l'origine de tout ce qui est corporel. Par conséquent, les vrais, les parfaits, ne se mariaient pas. Parce que accomplir l'œuvre de chair, comme il disait, c'est faire l'œuvre du démon. Alors la plupart, évidemment, continuent à se marier. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que du coup, le catharisme a quelque peu développé l'homosexualité. Ça se comprend, puisqu'on interdisait aux hommes et aux femmes d'avoir des rapports naturels, du coup, ils se rattrapaient autrement. L'hérésie cathare est quelque chose de très difficile. Bon, mais il faut reconnaître qu'ils avaient une perfection de vie qui contrastait étrangement avec un certain relâchement du clergé. Et vous savez que Saint Dominique a fondé les Dominicains en grande partie pour réprimer l'hérésie cathare, mais non pas à part de la répression manu militari, mais par l'exemple que donnaient les Dominicains.
Finalement, aujourd'hui, vous percevez que ces hérésies-là, le catharisme peut-être pas, mais en tout cas, vous avez cité Arius, on retrouve aujourd'hui des traits de ces hérésies, ces doutes, choix.
Vous pourriez faire une émission un de ces jours sur les rapports entre Simone Veil et le catharisme. Simone Veil aimait beaucoup les cathares, voyez. Et cette espèce de mépris que Simone Veil avait pour son propre corps, puisqu'elle s'est laissée mourir de faim à Londres en solidarité avec les personnes qui crevaient de faim pendant la guerre, est étudiée aujourd'hui comme un signe qu'elle était très proche du catharisme. Vous voyez, alors pour nos auditeurs, c'est quelque chose d'énorme que cette femme aussi sympathique que Simone Veil puisse être une résurgence du catharisme. Mais ça prouve bien qu'il y a toujours dans le monde des grands courants. Vous voyez, ce mépris pour le corps a toujours plus ou moins régné dans la civilisation, confère le mépris du corps que pouvaient avoir les Grecs.
Vous parlez de la relation au corps, mais si on regarde la figure du Christ lui-même, on doutait, les chrétiens, certains chrétiens ont pu douter de la réalité charnelle de Jésus. Et ça, c'est, a fait semblant d'avoir un corps comme le nôtre.
Alors, il faut bien savoir, c'est très intéressant de voir qu'au début de l'Église, il y a eu deux grandes hérésies sur Jésus. Les docètes et ceux qui niaient la conception virginale. Tout de suite, il y a eu alors les docètes, c'était des gens qui disent « c'est pas possible que Jésus ait pu aller aux toilettes, enfin. Dieu qui va aux toilettes, c'est complètement ridicule. Il a fait semblant d'avoir un corps pour nous parler, mais c'était pas vraiment son vrai corps. » Alors on les a appelés ensuite docètes, du verbe « dokei » qui veut dire « faire semblant ». Et ils prenaient prétexte sur le fait que Jésus n'avait pas été conçu comme les autres enfants. Vous voyez bien que ce n'est pas un corps comme les autres. Il n'a pas eu besoin de. Marie n'a pas eu besoin de Joseph pour concevoir son enfant. Donc il est passé à travers le corps de Marie en venant. C'est une espèce d'extraterrestre.
Et il y en a beaucoup qui pensent ça aujourd'hui, enfin, ou du moins qui auraient bien du mal à expliquer
ça. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Bon, et alors, l'Église, et alors d'autre part, il y avait ceux qui disaient « Jésus, forcément, il a été conçu comme les autres enfants. C'est ridicule, la conception virginale. On ne va quand même pas enseigner ça à ceux qui se convertissent au Christ. Ça donne trop l'impression d'être une résurgence des mythologies grecques et latines où des vierges peuvent donner naissance à des dieux. » Alors c'est très intéressant de voir que l'Église a tenu les deux bouts de la chaîne. Elle a dit, si les enfants, Jésus a été un homme comme les autres, avec un corps comme les autres, et pourtant il n'a pas été conçu comme les autres. Et tout de suite, l'Église a dû faire face à deux hérésies apparemment complètement complémentaires, contradictoires.
Et d'ailleurs, c'est face à ces hérésies que la foi est stimulée d'une certaine manière.
Oui. Alors peut-être qu'on en parlera au cours de l'émission, c'est vrai que la foi de l'Église s'est précisée, notamment au cours de ces grands conciles qu'on appelle les conciles christologiques, où l'Église a pris du temps pour essayer de balbutier moins mal sur le mystère de Jésus, vrai Dieu et vrai homme.
C'était quoi l'ambiance des débats théologiques à l'époque?
Eh bien, elle
était... y avait des grandes figures, en fait. Oui.
C'est-à-dire que, vous savez que, si on fait de l'histoire de l'Église à 3000 mètres d'altitude, l'Orient a toujours été passionné par les problèmes dogmatiques. Et l'Occident par des problèmes moraux. Hein? Bon, les grandes hérésies qui sont nées en Orient concernent la nature de Dieu, la nature du Christ. Et les grandes hérésies de l'Occident concernent la pratique. Hein? C'est très conforme à l'esprit romain. Hein? Nous, les Romains sont des gens qui savent construire des ponts, qui savent construire des routes. Ce sont des gens pratiques. Hein? Nous sommes profondément marqués par cette culture occidentale. Tandis qu'en Orient, on prend tout son temps pour réfléchir sur Dieu. Alors, vous voulez que je dise tout de suite quelque chose?
Oui.
On parle de discussion byzantine. Pourquoi? Parce qu'au concile de Nicée, on s'est battu sur une voyelle, sur un iota, sur la voyelle i en grec. Si vous ajoutez un iota, vous êtes hérétique. Si vous le supprimez, vous êtes orthodoxe. Parce que Arius disait, Jésus, il a une nature semblable à celle du Père, homoiousos, semblable. Et les pères réunis en concile à Nicée disaient non, il a la même nature, homo ousos. Vous voyez, on s'est battu sur une voyelle. Et je reconnais
la conséquence,
que...
La conséquence de tout ça,
la conséquence, c'est que d'un côté, Jésus ne serait pas vraiment Dieu, vrai Dieu né du vrai Dieu. Il serait un homme, une créature. De l'autre côté, il est Dieu, vrai Dieu. Vous voyez ? Et on s'est battu sur un adjectif, sur un... Hein. Mais alors, je comprends que certains de nos auditeurs disent qu'est-ce que c'est que ces prêtres qui se disputent sur une voyelle, hein? C'est ridicule, quoi. Mais il y va de l'authenticité de la foi.
Oui, et est-ce que pour autant la foi, elle est détenue entre guillemets par la majorité des voix dans un affrontement de deux écoles théologiques?
Bien, alors. Quand, à partir du moment où l'on croit, Mordicus, que le Saint-Esprit ne peut pas abandonner un concile, on est persuadé que la majorité est portée par le Saint-Esprit. Hein, ce n'est pas un concile, ce n'est pas une assemblée de... c'est pas comme une assemblée de Lourdes, voyez. À l'assemblée de Lourdes, les évêques ne votent pas tous la même chose. Il peut y avoir une très petite majorité qui se dégage à la réunion. Mais c'est pas un concile écuménique. Tandis que dans un concile écuménique, on peut dire que les décisions sont votées à la quasi-unanimité, et la minorité pense que c'est la majorité qui l'emporte. Prenons un exemple simple. Monseigneur Dupanloup, un grand prélat du 19e siècle, celui qui a relancé le procès de Jeanne d'Arc quand il était évêque d'Orléans, n'a pas voulu voter la déclaration de Vatican I sur l'infaillibilité pontificale. Et pour ne pas faire de mauvais esprit, il a quitté Rome avant la définition. Bon, mais quand il est revenu dans son diocèse, il a tout de suite accepté la décision. D'ailleurs, il était pour l'infaillibilité pontificale, mais il pensait simplement que cette décision n'était pas opportune, étant donné le climat.
Très intéressant d'ailleurs ce débat, on va y revenir sur l'infaillibilité, parce qu'on touche à cela aussi, comment l'esprit se révèle et fait que d'une certaine manière, la tradition qui s'élabore est infaillible.
Mais, si on ne croit pas à l'infaillibilité pontificale, il est normal de penser avec nos frères de la Réforme qu'on peut dire un tas de choses, quoi. Encore que la plupart des frères réformés acceptent la validité et la pertinence des premiers conciles christologiques. Ça, ils ne les remettent pas en question. C'est peut-être pas très logique, mais ils pensent qu'à ce moment-là, l'Église avait encore le Saint-Esprit avec elle.
Oui, hein. Et qu'il serait parti, qu'il l'aurait quitté, lâché
l'Église. En quelque sorte.
Oui. On va revenir d'ailleurs, on parlera de Luther. Luther, il est considéré comme hérétique pour les catholiques.
Bon, alors maintenant, on en fait plutôt un schismatique, mais on reverra peut-être tout à l'heure la question.
D'ailleurs, si vous, auditeurs, vous avez des questions à poser au père Pierre Descouvement, n'hésitez pas à le faire. Vous savez, l'antenne est largement ouverte. 0892 68 80 30. 0892 68 80 30. Dans un instant, on va revenir sur l'enjeu aujourd'hui de réfléchir, de s'informer, de travailler sur ces questions, de la manière dont la foi s'est non seulement pas vraiment élaborée, mais en tout cas clarifiée au cours des premiers siècles. On parlera de ces hérésies, comment Dieu a-t-il pu devenir homme ? Pourquoi Dieu s'est-il abaissé à devenir comme nous ? Est-il vraiment mort sur la croix ? Dieu peut-il vraiment mourir ? Ce sont les questions auxquelles les premiers chrétiens se sont confrontés. On en parle avec le père Pierre Descouvement à l'occasion de ce dossier. Faut-il avoir peur des hérésies ? C'est dans le mensuel « Il est vivant » du mois de mars. Tout de suite, on fait un point sur l'actualité. Il est tout juste 11h. On retrouve le père Pierre Descouvement, mais tout de suite, c'est Jean-Marc Anquèze.
Bonjour, de la prison ferme pour une mère violente, une femme de 32 ans qui avait eu une altercation avec l'institutrice de son enfant au sujet d'une histoire de gants volés dans l'école élémentaire marseillaise Saint-Louis. L'enseignante avait eu 10 jours d'incapacité totale de travail et la mère l'avait menacée d'envoyer son mari pour la tuer. Le tribunal correctionnel de Marseille vient de condamner la mère agressive qui ne s'est pas présentée à l'audience à 4 mois de prison ferme et à 1000 euros de dommages et intérêts. Un commissaire de la police financière en garde à vue, il est soupçonné d'avoir utilisé un fichier de police, le système de traitement des infractions constatées, pour des besoins autres que ceux entrant dans le cadre de ses fonctions. Des policiers ont déjà été interpellés et condamnés dans le passé pour avoir détourné ces informations confidentielles, fournissant des renseignements, parfois contre rémunération, et notamment à de futurs employeurs. Une mère de famille de 52 ans, Chantal Sébir, défigurée par une maladie incurable, demande à la justice le droit d'être euthanasiée par l'un de ses médecins. Le tribunal de grande instance de Dijon a mis son jugement en délibéré à lundi prochain. La garde des Sceaux, Rachida Dati, se dit ce matin hostile à un changement de la loi sur l'euthanasie. Elle estime que la médecine n'est pas là pour administrer des substances létales, je la cite bien sûr. Quant à la loi pénitentiaire, elle sera présentée au Parlement avant la fin du premier semestre. Rachida Dati l'annonce ce matin. Ce projet prévoit notamment de rendre vraiment exceptionnelles les détentions provisoires par l'emploi notamment du bracelet électronique. Le texte prévoit aussi un droit à l'insertion des détenus à qui devrait être proposé une remise à niveau scolaire ou une formation professionnelle. Une maison à 15 euros par jour, l'idée a été lancée par Christine Boutin à la fin du mois de février. La ministre du Logement propose maintenant d'étendre cette formule d'accession à la propriété destinée aux foyers modestes aux appartements. Le dispositif doit être lancé officiellement le 15 avril. La mort du dernier poilu, il se nommait Lazare Ponticelli, il a poussé son dernier souffle hier chez sa fille au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Engagé à l'âge de 16 ans dans la Légion étrangère, Lazare Ponticelli, italien devenu français, s'était illustré notamment dans les combats de la forêt d'Argonne. Un hommage national, civil, militaire et religieux sera célébré lundi matin aux Invalides, en présence du président de la République. Un hommage pour Lazare Ponticelli, mais aussi selon son vœu, au nom de tous ceux qui sont morts, hommes et femmes, pendant la Première Guerre mondiale. Lazare Ponticelli sera ensuite inhumé, et là aussi, selon son vœu, dans l'intimité, dans le caveau familial du cimetière d'Ivry-sur-Seine. Lazare Ponticelli était âgé de 110 ans, 11h03.
Radio Notre-Dame, un autre regard. Chaque jeudi à 18h30, retrouvez Face aux chrétiens, animé par Frédéric Mounier.
Face aux chrétiens.
Hommes politiques, grands patrons ou acteurs de l'Église répondent le jeudi à 18h30 aux questions de la Croix, RCF et Radio Notre-Dame. Face aux chrétiens, un magazine animé par Frédéric Mounier.
Témoignez sa foi en Jésus-Christ. Veillez à l'unité des chrétiens et les aider matériellement. Telle est la vocation de l'Œuvre d'Orient. Retrouvez les interventions de Mgr Philippe Brizard, directeur de l'Œuvre d'Orient, chaque samedi à 6h25 et 7h25, le dimanche à 20h et le mardi à 16h55.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Papa, j'ai trouvé quelqu'un pour préparer tes petits plats.
Qui ?
Saveur et Vie, premier service de restauration médicalisée et gastronomique à domicile. Plus de problèmes pour ton régime. Les repas sont de qualité et personnalisés par des diététiciennes.
Ce ne sera pas trop compliqué.
Mais non, le système de Saveur et Vie est souple et il y a une formule déjeuner dès 8,90€. On essaye ? C'est sans engagement. Je réserve et tu es livré rapidement. Saveur et Vie, bien manger pour mieux vivre. 01 41 733 733. Livraison Île-de-France, prestation ouvrant droit à une réduction d'impôt.
L'agenda musical, une émission d'Edith Walter, chaque vendredi à 16h et le dimanche à 14h30.
Aujourd'hui l'Église.
Marcion, Arius, Nestor, Pélage et les autres, autant de chercheurs de vérité qui ont fait le mauvais choix, ils sont tombés dans l'hérésie, c'était lors des premiers temps de l'Église, et non, il ne faut pas les oublier trop vite, car nombre de contestations actuelles prennent racine dans ces mêmes thèses non conformes à la foi de l'Église. Le mensuel Il est vivant consacre son dossier du mois de mars à cette question, faut-il avoir peur des hérésies? Le père Pierre d'Escouvement est là pour nous sortir en quelque sorte de cette paresse intellectuelle dans laquelle on est englué, parce qu'on ne connaît en général assez mal hein, ces premiers temps, l'histoire de l'histoire de l'Église, ces premiers conciles. Quel est l'enjeu de plonger dans cette histoire des débats mouvementés des premiers chrétiens? Eh bien, nous en parlons dans notre émission. Si vous avez des questions à poser, si vous souhaitez réagir aux propos du père d'Escouvement, vous savez, hein, vous avez l'antenne 0892 68 80 30. L'homme, dites-vous, père d'Escouvement, est un éternel chercheur de Dieu. Il veut comprendre, analyser, percer tous les mystères et ne pas se bercer d'illusions. Mais parfois, cette recherche s'égare dans des chemins de traverse qui sont, il faut le dire, bien séduisants. Père Descombe. Oui.
Donc, voyez, la bonne attitude à avoir devant les mystères de notre foi, c'est comprendre une bonne foi qu'il est normal de ne pas comprendre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire comprendre à un élève de CE1 ou CE2. Qu'est-ce que c'est que l'esprit, voyez les enfants? Votre esprit qui est capable d'imaginer ce que vous allez faire tout à l'heure, de vous souvenir, de savoir 4 et 4, 8, 8 et 8, 16. Eh bien, aucun savant ne sait ce qu'est l'esprit humain. L'esprit humain est capable de pénétrer de plus en plus ses secrets de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Mais les hommes qui vont sur la Lune, qui inventent des engins pour aller sur la Lune, ne savent pas ce que c'est que leur esprit. Alors, si mon esprit n'est pas capable de comprendre mon propre esprit, il est normal qu'il ne soit pas capable de comprendre l'esprit de Dieu.
Pourtant, on a envie de percer le mystère. Mais
alors, on croit à ces mystères uniquement parce que Dieu nous les a révélés et que l'on a des raisons de croire que c'est Dieu qui parle à travers Jésus-Christ. Ce qui voudrait, évidemment, c'est une autre émission à faire. Bon. Et alors, à partir du moment où on croit à ces mystères et que l'Église nous dit qu'il faut prendre à la lettre tel ou tel passage de l'Écriture, j'essaye de comprendre un petit peu. C'est-à-dire que j'obtiens, comme dit le Concile Vatican I, une certaine intelligence des mystères en les comparant les uns aux autres. La méthode de la théologie, il faut le rappeler, est tout à fait spéciale. On ne déduit pas les mystères les uns des autres, mais on les éclaire les uns par les autres. Vous voulez que je prenne un exemple ?
L'exemple.
Bon. La conception virginale, par exemple. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que Joseph n'a pas donné son spermatozoïde pour la conception du petit Jésus ? J'ai été conseiller national des équipes Notre-Dame pendant plusieurs années. Combien de fois on m'a balancé cette affaire-là ? Père d'Escouvement, vous insistez sur la beauté de la sexualité. Ce serait tellement mieux que Jésus soit né d'une étreinte sexuelle pleine de charité, pleine de tendresse, pleine de chasteté entre Marie et Joseph. Ça montrerait au moins une bonne fois que la sexualité n'est pas quelque chose de mauvais, qu'on n'est pas cathare.
Bon, et non. Alors ça serait
hérétique. Bon, ça c'est l'objection. Oui. Alors qu'est-ce que je réponds ? Comment se fait-il qu'on est là tout à l'un et l'autre près de l'antenne ? On n'y pense presque jamais. Parce qu'un soir, habituellement c'est le soir que ça se passe, nos parents se sont tendrement aimés. Nous sommes le fruit d'une étreinte sexuelle. Comme tous les hommes de la terre. Eh bien, les chrétiens qui vont fêter la naissance de Jésus la nuit de Noël, fêtent la naissance d'un petit bonhomme qui est là parce qu'il vient de lui-même sur terre. Il préexiste à ses parents. Il n'est pas le fruit d'une étreinte sexuelle. J'éclaire le... S'il avait été le fruit d'une étreinte sexuelle, il serait un homme comme nous, qui aurait tout de suite été habité par le Fils de Dieu. Mais moi aussi, je suis un homme habité par Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Jésus, c'est Dieu en personne qui vient de lui-même, comme un Dieu, comme un roi, comme un prince. Il décide de venir sur terre. J'éclaire le petit mystère de l'absence du spermatozoïde dans le sein de Marie par un mystère bien plus grand, la préexistence éternelle du Verbe dans le sein du Père. Vous voyez, tâchez de comprendre que c'est la méthode de la théologie. Le mystère reste entier, mais il est éclairé par l'ensemble du mystère chrétien.
Même si ça appelle de très nombreuses autres questions,
c'est
finalement.
Ça. Autrement dit, la théologie, c'est un puzzle. C'est à force de faire de la théologie qu'on s'aperçoit que tout se tient. Mmh. C'est ça qui est passionnant.
Nous sommes avec Catherine au téléphone. Bonjour Catherine et merci beaucoup d'être là. Vous avez des questions peut-être à poser au Père d'Escouvement. On
oui.
vous écoute.
Bonjour mon père et bonjour Étienne Roger. Mon père, j'ai beaucoup d'honneur à vous parler et à vous lire. Vous êtes un grand philosophe et un grand théologien.
Non.
Vraiment,
non.
Et avec beaucoup de joie et de sourire et de bonté.
Alors, la question.
Je voudrais vous demander pourquoi vous, grand théologien, grand philosophe, là vous venez de parler de Marie, on ne parle pas de ce qui se passe dans le fond des mers, on ne parle pas de la race animale, on ne parle pas de la parthénogenèse. Or elle existe là. Et puis tout, changement de sexe même au fond des mers. Au fond, nous ne connaissons pas assez la nature que Dieu a faite, et à Dieu tout est possible, c'est ce que vous venez de dire d'ailleurs.
Alors...
La
merci Catherine pour votre réaction. Je ne sais pas ce que vous comprenez à travers le propos de Catherine, Père d'Escouvement.
Que Jésus serait né par parthénogenèse, si je comprends bien, c'est ça. Pourquoi pas ? Le comment de la conception de Jésus nous échappe. L'Église ne cherche pas à savoir comment cette conception a pu avoir lieu sans le spermatozoïde de Joseph. Bon, alors ensuite, vous pouvez essayer de trouver toutes les explications scientifiques que vous voulez, pourquoi pas. Mais ça, ce n'est plus le domaine de l'Église, sur le comment de la conception virginale. L'Église nous demande simplement de croire, sur la parole de l'Écriture, que Joseph n'a pas joué son rôle dans la conception de Jésus.
Voilà. Et à l'heure de la science toute puissante, c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à dire, mais attendez, Père, comment ça s'est passé ? Alors dites-nous, racontez-nous, maintenant à l'heure de l'échographie, qu'est-ce qu'on aurait pu voir à l'époque ?
Je n'en sais rien, vous voyez, je pense qu'il faut bien voir que l'Église n'a aucune curiosité pour ces choses-là, mais... libre aux chrétiens d'imaginer une explication scientifique. Et voilà.
Et pourtant, il est question de vérité, de la vérité.
Oui, mais l'Église ne cherche pas à savoir le comment. C'est comme quand, prenons un exemple simple, les miracles. Bon, je connais personnellement une personne, une religieuse qui a été guérie en 2 secondes de tous ses problèmes. Bon, bien l'Église... ne cherche pas à savoir comment Dieu est intervenu concrètement pour rétablir la santé de quelqu'un, pour guérir en une seconde ses cartilages, ses vertèbres, etc. Vous voyez ? Bon.
Par contre, elle constate.
Elle se constate de constater. Bon, libre aux gens d'imaginer, pourquoi pas. Comment ça puisse.
Dans ce mensuel Il est vivant du mois de mars, on trouve un article du père Bernard Pérousse qui évoque la figure de Tertullien. Je trouve que c'est intéressant de l'évoquer particulièrement en ce moment parce que ça pourrait être aussi une tendance qui peut guetter certains fidèles. Tertullien qui, comme beaucoup à cette époque-là, était un converti, né dans le paganisme. Il devint chrétien et s'engagea dans la défense du christianisme avec beaucoup d'intransigeance. Et l'intransigeance, d'une certaine manière, l'a fait déraper dans l'hérésie. Alors, on voudrait comprendre.
Oui, c'est-à-dire que par réaction contre le paganisme de son époque, il fustige tout ce qui peut être pornographie, si vous voulez. Hein, et donc, il se méfie de tout ce... Il y a une certaine méfiance exagérée pour la sexualité, qui annonce le catharisme, si vous voulez. Pour aller vite, hein, on ne va pas faire toute une émission là-dessus. Mais je crois qu'il faut bien comprendre que intransigeance ne veut pas dire janséniste. Aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un... parle d'une certaine rigueur dans l'interprétation de l'évangile, quand par exemple il prend au sérieux la mise en garde que Jésus nous fait sur l'enfer, qu'il faut éviter, qu'il y a une bonne crainte de l'enfer, on dit c'est un rigoriste, c'est un janséniste, pas du tout, c'est bien. Voyez, prenons un exemple simple, Saint-Louis ici à Paris, assistait à la messe tous les jours, même parfois à plusieurs messes par jour, mais il ne communiait que quelques jours par an. À la même époque, les franciscains, qui aimaient tant l'Eucharistie, ne communiaient pas tous les jours. Ce n'est pas du jansénisme. Le jansénisme venait beaucoup plus tard. C'est du rigorisme. C'est-à-dire qu'il y a des époques dans l'histoire de l'Église où l'on s'approche des sacrements avec beaucoup plus de respect. Et aujourd'hui, on a une petite tendance à aller communier sans beaucoup s'y préparer. Je ne dis pas que notre époque a tort. Je signale simplement qu'on est moins rigoriste que jadis.
Et alors, le rapport à Tertullien ?
Eh bien, le Tertullien, c'était un rigoriste. Voilà.
Et pourquoi il a basculé dans l'hérésie ? Parce qu'on ne dit pas que Saint-Louis est hérétique.
Bon, c'est-à-dire qu'il se met à avoir une conception du corps qui n'est plus légitime. Quoi.
Quelques débats aussi autour de l'identité du Christ. On a évoqué tout à l'heure les docètes, hein, ceux qui ne croyaient pas que Dieu était vraiment homme. Un peu plus tard, il y a eu Marcion vers l'an 140.
Oui, alors Marcion, c'est le premier antisémite de l'histoire de l'Église. Vers l'an 170, ce prêtre... En regardant l'écriture, se dit, mais ce n'est pas possible que le Dieu des Juifs soit le même que le Dieu chrétien. Parce que le Dieu des Juifs dit à Josué, tu vas me passer au fil de l'épée tous les mâles de Jéricho et tu n'en laisseras échapper aucun. Tandis que le Dieu de l'Évangile nous dit, quand tu es frappé sur la joue droite, tout la joue gauche.
Donc. C'est vrai qu'il s'est passé un basculement.
Bon,
enfin,
Alors. Alors, c'est à ce moment-là que l'Église a réagi fortement contre ce premier antisémite en disant « Non les enfants, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le même que le Dieu de Jésus-Christ. » Et c'est à ce moment-là qu'on a réuni en un seul livre ce qu'on a appelé désormais l'Ancien et le Nouveau Testament. Tenez-vous bien, jusqu'en l'an 170, quand les chrétiens parlent de l'Écriture sainte, ils ne parlent que de l'Ancien Testament. C'est seulement à ce moment-là.
C'est curieusement d'ailleurs.
Oui, ça, c'est une chose que
les premiers chrétiens parlent de l'Écriture sainte.
Les premiers chrétiens ne considéraient pas les évangiles, les actes des apôtres, les lettres de Paul, etc., comme paroles de Dieu au même titre que l'Ancien Testament. Marcion a permis la prise de conscience que nous avions nous aussi nos saintes écritures, à savoir ce que nous appelons le Nouveau Testament.
Et d'ailleurs le père Denis Bijou Duval le dit bien, d'une certaine manière les hérésies ont le mérite...
De préciser la pensée de l'Église.
C'est comme une stimulation, même si c'est un drame, oui. D'une certaine manière, à surmonter.
Prenons un autre exemple sympathique, saint Augustin, ce grand penseur occidental. Saint Augustin a eu maille à partir à la fin de sa vie avec ce qu'on appelle les Pélagiens. Les Pélagiens, c'est une branche de l'Église qui a comme origine un moine, Pélage, qui disait « Saint Augustin, tu es toujours en train de dire que lorsque nous faisons quelque chose de bien, c'est Dieu qui le fait. » Sous prétexte que Saint Paul dit « C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. » Mais Augustin, il y a quand même un petit quelque chose qui vient de nous. C'est quand même nous qui avons le mérite d'appeler Dieu au secours. Alors Dieu intervient. Mais le fait d'appeler Dieu au secours, ça vient de l'homme. Non, répond Saint Augustin, même lorsque tu décroches ton téléphone pour appeler Dieu au secours, c'est encore Dieu qui te donne la grâce de l'appeler au secours. Tout vient de Dieu. Et donc, contre la... C'était sympathique de la part de Pélage.
Oui, on ne voit pas très bien où est le danger.
Mais enfin... C'est-à-dire que le Pélage, il y a quand même quelque chose qui vient de l'homme. L'homme est quand même libre. Il y a quelque chose où Dieu n'intervient pas. Et Saint-Augustin, non, dit Dieu, intervient même quand il appelle au secours. Eh bien, autrement dit, Pélage, Saint-Augustin nous dit, il faut à la fois croire que c'est Dieu qui fait tout et que pourtant nous sommes libres. Et pour le dire tout de suite, c'est sur ce même mystère que va buter Luther au XVIe siècle. Luther va se pencher lui aussi sur saint Paul, quand il devient professeur d'écriture sainte. Il s'aperçoit avec admiration que lorsque nous faisons quelque chose de bien, c'est Dieu qui nous le fait faire. Et alors il en déduit, c'est Dieu qui fait tout, nous ne sommes pas libres. Et c'est la thèse luthérienne, reprise par Calvin, de la prédestination. Nous avons l'impression d'être libres, mais non, nous ne le sommes pas, puisque la Bible nous dit que c'est Dieu qui fait tout. Tandis que, avant Luther, saint Augustin disait « c'est Dieu qui fait tout à 100%, et pourtant nous sommes libres à 100%. » Encore un mystère, une contradiction apparente.
Il faut rappeler d'ailleurs Luther, Martin Luther, religieux dans l'ordre des Augustins réformés. Enfin, il était très engagé, brillante carrière universitaire dans les universités catholiques de l'époque.
Il était vraiment très marqué par la doctrine de saint Augustin. Hein. D'ailleurs, le jansénisme qui a été en France une espèce de luthéranisme larvé a comme origine l'évêque d'Ypres Janssen qui a écrit tout un livre, enfin qui est à l'origine de l'Augustinus, hein, la grande querelle du XVIIe siècle en France sur cet Augustinus de Janssen.
Je voudrais citer le propos du père Bernard Pérouse. Martin Luther avait sans doute vraiment vu une partie des problèmes de l'Église, mais son tempérament radical et excessif, son orgueil intellectuel, avec tout le respect qu'on lui doit, amenèrent une explosion dont le christianisme ne s'est pas remis.
Oui, c'est vrai, on a souvent dit que les protestants, je crois que c'est le master Buckner qui disait lui-même que s'il y avait eu un Jean 23 ou un Jean 23 comme pape au temps de Luther, la réforme ne se serait jamais produite. Hein. Il faut bien voir que l'Église était, les hommes d'Église n'étaient pas très reluisants au XVIe siècle. Hein. Je rappelle que Saint Vincent de Paul, Saint Vincent de Paul était aumônier de la famille des Gondi, dont le mari était le grand amiral des galères de France. Eh bien, quand Madame de Gondi allait se confesser sur ses terres de Picardie, elle était obligée de souffler la formule de l'absolution au prêtre auquel elle se confessait, parce que le prêtre ne connaissait même pas la formule de l'absolution. Et c'est ce qui fait que M. Vincent a fait partie de ces prêtres français qui ont fondé les séminaires au XVIIe siècle, sans pousser de cocorico gaulois. Ce sont quand même trois prêtres français du XVIIe, M. Vincent, M. Ollier, Saint Jean-Eudes, qui ont inventé les séminaires.
Sur cette question-là, et par rapport à Luther, est-ce qu'on dit que Luther est un hérétique aujourd'hui dans l'Église catholique ?
Alors aujourd'hui, si vous voulez, dans la mesure où les luthériens accepte davantage ce que dit l'Église sur la liberté de l'homme face à Dieu, je pense qu'il n'affirme plus autant la prédestination que jadis. Et dans la mesure où il ne nie pas la liberté de l'homme, ils ne sont plus hérétiques de la même façon. Hein. Seulement, en fait, dans la mesure où il n'accepte pas l'autorité de l'Église, on peut dire que c'est quand même une hérésie, quoi.
Ou en tout cas un schisme qui s'est produit.
Un schisme qui a comme origine une grosse erreur théologique. Dans la mesure où un protestant ne croit pas à la présence réelle du Christ à l'Eucharistie, il nie un dogme essentiel. Donc, en ce sens-là, il est hérétique. Seulement, ce que nous espérons tous, avec le progrès de l'écuménisme, c'est que peu à peu, ils puissent reconnaître la réalité de l'Eucharistie.
Alors, à vous écouter, Père, on comprend bien que finalement, garder mémoire de ces débats théologiques et de savoir ce qui est vérité de foi et ce qui est hérésie, on n'est plus du tout dans le relativisme. Et que, quelque part, le débat a été tranché et que si on accepte le débat, ça peut déplaire. Par exemple, votre propos actuellement sur Luther, ça peut considérablement déplaire, bien sûr, aux protestants, mais aussi aux catholiques qui veulent avoir pour amis les protestants. Enfin,
vous avez raison de dire qu'il est important de se rappeler ces grands débats. D'ailleurs, chez les orthodoxes, le catéchisme se fait en apprenant par cœur les différents conciles. Prenons un exemple simple. Le concile d'Éphèse, en 431, a condamné le patriarche de Constantinople, Nestorius, qui disait « Jésus est une personne humaine habitée par le Verbe. » Jésus est une personne humaine. Eh bien, vous avez encore aujourd'hui des catéchistes, peut-être qui, mal formés, continuent à dire cette énormité que Jésus est une personne humaine. Et donc, ce n'est pas Dieu qui est mort pour nous sur la croix, c'est simplement un homme. Vous vous rendez compte que c'est plus une bonne nouvelle, ça. Non, le moi, il n'y a qu'un seul moi en Jésus. Et c'est ce qui peut... Vous savez, des chrétiens qui me demandent périodiquement « Est-ce que Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu ?» Voilà une question classique d'aujourd'hui. Bien sûr qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu, a rappelé la Commission internationale de théologie il y a quelque temps. Parce que s'il ne l'avait pas su, il aurait été aliéné. Si vous vous prenez pour Napoléon et que vous ne l'êtes pas, vous êtes aliéné, vous ne connaissez pas votre identité. Si Jésus était le Fils de Dieu et qu'il ne le savait pas, il eût été aliéné. Et il se serait réveillé le dimanche de Pâques. Ah mince alors, je suis le Fils de Dieu, quelle bonne surprise, il ne me l'avait pas dit. Non, Jésus savait, dès le début de son existence, qu'il était le Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que le moi de Jésus, c'est le moi du Fils de Dieu. Et c'est pourquoi la psychologie de Jésus est impossible à comprendre pleinement. Personne sur Terre n'est le Fils de Dieu en personne.
Vous évoquiez, Nestor, à l'instant, Père Descouvement, mais c'est vrai que certains disent, au moment du baptême du Seigneur, quand Dieu intervient en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », c'est comme si, finalement, c'était un homme, un peu comme vous et moi, et puis, à ce moment-là du baptême, il aurait pris conscience qu'il avait une vocation particulière,
bon,
aurait
reçu l'Esprit-Saint. Ça, c'est très intéressant. On peut dire qu'à ce moment-là, il a pris conscience de sa vocation. Parce que tout en étant le Fils de Dieu, il ne savait pas tout d'avance. Alors, vous m'obligez à faire quelque chose de très important. La distinction des trois niveaux de la conscience du Christ. Il y a un niveau, il est tout à fait comme nous. Il a dû apprendre à parler, à écrire son métier de charpentier. Bon, on voit que dans l'Évangile qu'il s'étonne de la foi du centurion ou de l'incrédulité des gens de Nazareth. Quand on s'étonne, c'est qu'on ne sait pas tout d'avance. De ce point de vue-là, il a une psychologie comme la nôtre. Tout au fond de lui-même, il se savait le Fils bien-aimé du Père. Il n'avait pas besoin de croire en Dieu, il l'était. L'Église ne supporte pas cette idée que Jésus croyait en Dieu. Non, quand on sait qu'on est le Fils de Dieu, on n'a pas besoin de croire en Dieu. Et alors, il y a un autre niveau très important qu'on appelle la science infuse. C'est-à-dire que de temps en temps, Jésus recevait de son Père des flashs de l'Esprit-Saint qui lui permettaient de comprendre, par exemple, de deviner que Pierre allait le renier, que Judas allait le trahir, qu'il devait commencer son ministère, qu'il devait faire son premier miracle. Là, ce qu'on appelle des flashs de l'Esprit-Saint. Les saints eux-mêmes en ont reçu. Don Bosco a été capable de prévoir comme ça. Le Padre Pio, le curé d'Ars, était capable de lire dans la conscience des gens, non pas en regardant les lignes de la main ou en regardant leur visage, par un flash de l'Esprit-Saint. A fortiori, Jésus avait des flashs comme cela, et en ce sens-là, on peut dire que c'est à un certain moment qu'il a pris conscience qu'il devait lancer son ministère et qu'il souffrirait un jour sur la croix.
Je vous signale d'ailleurs que tout au long de la Semaine Sainte, dans cette émission Aujourd'hui l'Église, nous vous proposons une méditation autour du livre de Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Avec le Père Henri de Villefranche, nous attellerons à cette question. Jésus de Nazareth, vrai Dieu, vrai homme. Et d'ailleurs, on reviendra à la première émission lundi prochain. Ce sera autour de la question du baptême du Seigneur. Je voudrais qu'on prenne Israël au téléphone. Bonjour Israël.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous avez patienté.
Ouais.
Alors, est-ce que vous avez une question précise
à
poser ?
Ma question, c'est qu'est-ce qui prouve finalement que ce n'est pas une des hérésies qui a eu raison ? Je pense à Arius. Parce qu'Arius a dit, finalement, fils de Dieu, tout le monde est fils de Dieu, c'est dans les évangiles le même, que tout le monde est fils de Dieu. Donc, pourquoi Jésus serait plus fils de Dieu qu'un autre, je veux dire, c'est un homme comme un autre, puis c'est tout. Et finalement, ça tient beaucoup plus à route que l'élucubration de la Trinité et tout ça. Hein.
Alors.
Oh, très intéressant, cher monsieur. Vous représentez la pensée d'un milliard d'hommes, hein, ce n'est rien. Car Mohammed a repris, quelques siècles plus tard, la pensée d'Arius. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple, justement, de penser que Jésus est un homme comme les autres. Et c'est pourquoi Arius a eu un tel succès à travers toute l'Europe. Beaucoup d'évêques de France, de Gaulle, sont devenus ariens, etc.
Au début du IVe siècle.
Au début du IVe siècle. Bon, alors comment l'Église a-t-elle fait pour... Et alors, je vais vous donner des arguments, si vous voulez, pour vous montrer qu'Arius était loin d'être un imbécile, et c'était un évangélisateur. Il enthousiasmait la jeunesse d'Arius, la jeunesse d'Alexandrie, en chantant des chants religieux dans les rues d'Alexandrie. Il s'appuyait par exemple sur le mot de Jésus qui dit, quand il est interviewé par ses apôtres, « Quand est-ce que vous allez revenir, maître ?» Le Fils de l'homme ne le sait pas. Vous voyez, Arius s'appuyait sur, ou bien « Mon Père est plus grand que moi. » Et alors, il a fallu regarder de près l'Évangile pour voir s'il n'y a pas dans l'Évangile des traces où Jésus a conscience, montre qu'il a conscience de ne pas être comme les autres. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a été condamné. Le « moi » de Jésus est insupportable pour un juif. Je suis la lumière du monde. Je suis le véritable pain du ciel. Je suis la véritable source de vie. Je suis le véritable... Vous voyez, comme me disait un jour une élève de seconde, « Votre Jésus, il est drôlement orgueilleux. » Non, je dis, il est prétentieux. Il ne se prend pas pour n'importe qui. Prenez un exemple. La loi juive permet le divorce. Deutéronome chapitre 24. Si un homme trouve une tare à imputer à sa femme, il peut la renvoyer, à condition de lui donner un acte de répudiation pour qu'elle puisse convoler en juste noce avec quelqu'un d'autre sans être taxée d'adultère. On vient interviewer Jésus. Quelle est la tare pour laquelle on peut renvoyer sa femme? Parce qu'il y avait discussion chez les rabbins. Les uns disaient « une soupe mal cuite, ça suffit », les autres « incompatibilité d'humeur », les autres « trois adultères dûment constatés ». Et Jésus répond « Niette, on n'a jamais le droit de répudier sa femme. » Tâchez de bien comprendre que rien qu'à cause de ça, Jésus méritait déjà d'être condamné. Il se permet de contester la loi de Dieu. La loi de Dieu. Vous voyez, j'aime beaucoup ce que, vous savez, les rabbins, les futurs rabbins étudient l'Évangile à Jérusalem.
Je connais,
bien sûr, ils étudient l'Évangile comme curiosité historique, quoi. Hein. Quand les rabbins étudient, vous savez quelle est la réaction des rabbins quand ils lisent l'Évangile? Ils l'ont laissé courir 3 ans, le gars. Ben il a eu de la chance. Faut bien voir que Jésus parlait avec une autorité que n'avait et que n'aura jamais aucun rabbin. Jésus ne se prenait pas pour n'importe qui. Autrement dit, vous avez tout à fait raison de poser la question. Si l'Église a condamné Arius, c'est pas pour le plaisir de condamner quelqu'un. C'est pas pour le plaisir d'accepter le mystère de la Trinité et le mystère de l'incarnation, mais parce que l'étude objective, loyale, sincère de l'Évangile nous oblige à dire que Jésus ne se prenait pas pour un homme ordinaire, quoi. Se prenait pour le Fils de Dieu.
En fait, Einstein, il se prend pour un homme ordinaire, hein. C'est pas une preuve, ça. Hein.
Comment ?
Les hommes qui se prennent pas pour des hommes ordinaires, il y en a un paquet, hein.
Ben, c'est-à-dire, oui, alors, bah, mais que par ailleurs.
Le Fils de Dieu pour autant, hein.
Oui, alors c'est vrai que les hôpitaux psychiatriques sont évidemment remplis de gens qui se prennent pour qui se prennent pas pour n'importe qui. Bon, mais si vous ne croyez pas, si vous voulez, si vous ne croyez pas que Jésus est quelqu'un qui est envoyé par Dieu et qu'il dit des choses, si vous ne voyez pas à travers la conduite de Jésus et notamment les miracles qu'il accomplit à longueur de vie et que ce qu'il dit est approuvé par Dieu, je comprends votre hésitation devant le mystère de Jésus. Merci, cher monsieur.
Écoutez, il y a une question de foi, finalement.
Allô, oui. Allô,
dernière réaction, Israël, avant qu'on puisse prendre Patrick.
Je ne peux pas intervenir une fois, là.
Oui, allez-y, rapidement.
Si on prend par exemple le problème de la virginité de Marie, on parle dans le Talmud des vierges qui enfantent. C'est-à-dire qu'on dit qu'une femme, parfois, elle a besoin de tout rapport avant de perdre son hymen. Et d'ailleurs, on peut être un peu plus simple encore. On peut dire simplement, il se peut que naturellement, il y a tout orifice dans l'hymen, et que ça peut laisser passer des spermatozoïdes, et que comme ça, sans que l'hymen soit rompu, la vierge enfante, et que le spermatozoïde passe jusqà l'ovule et tout.
Ouais. Donc, on a déjà évoqué, Israël, cette question-là de la virginité de Marie, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions, et finalement, plus on se pose de questions, et plus il en émerge d'autres, et on peut être un peu perdu.
C'est-à-dire que...
Ce qui est un peu d'ailleurs la situation de beaucoup de nos contemporains.
C'est simple. Si vous ne croyez pas que l'Église... c'est une émission. Si vous ne croyez pas, par une étude précise de l'Évangile, que Jésus, premièrement, a voulu une Église, que deuxièmement, il a voulu une Église hiérarchique, que la distinction entre clerc et laïc n'est pas une invention de l'Église, parce qu'il y aura toujours des gens qui veulent avoir un pouvoir clérical, que Jésus a voulu une Église hiérarchique, et que troisièmement, il a fondé la solidité de son Église sur Pierre et ses successeurs, ben, c'est normal que vous pouvez penser qu'il n'y a pas de raison que les évêques réunis en concile aient plus raison qu'un grand intellectuel qui a une idée par ailleurs.
Donc il y a une question de foi au départ.
C'est une question de croire, de regarder si, oui ou non, historiquement, vous voyez, il y a une étude historique de la Bible qui est indispensable. Hein. Est-ce que Jésus, par exemple, a voulu une église? Bon, vous avez...
Ça, il y en a qui posent la question. Non. Ben, en disant que l'église s'est érigée au pouvoir.
Il y a trois questions. Est-ce que Jésus a voulu une église? Deuxièmement, a-t-il voulu une distinction entre clerc et laïc? Et troisièmement, a-t-il voulu une église où les évêques réunis autour du pape puissent avoir un pouvoir infaillible? Parce que si je ne crois pas à cette troisième chose-là, il n'y a pas de raison que je me soumette aux décisions conciliaires. Et alors, on ne peut, pour ne pas faire de cercle vicieux, il ne faut pas dire c'est parce que l'Église me le dit. Non, est-ce que Jésus a voulu cette Église-là? Donc, une Église, une étude historique est indispensable. Et une étude de même pour la résurrection du Christ. Si vous pouviez me prouver que les évangiles ne disent pas la vérité sur les apparitions du Christ, moi je ne sais pas si je continuerai à prêcher. Prenons un exemple simple. Un bouddhiste. Vous avez des bouddhistes qui ne croient pas à l'existence historique du Bouddha. Et ça ne les gêne pas. Parce que ce qui les intéresse, c'est la doctrine bouddhiste. Quel que soit l'homme qui l'a mise en route. Mais si moi, voyez, moi je ne prêche pas la doctrine de Jésus, je prêche la personne de Jésus. C'est le chrétien, c'est quelqu'un qui est attaché au Jésus de Nazareth.
Et justement, ça, vous rejoignez là la question de Patrick qui nous dit, finalement, le christianisme, est-ce que c'est une doctrine à vous écouter puisqu'on parle d'hérésie? Est-ce que c'est uniquement ce rapport à la doctrine, au fait d'établir des dogmes?
Donc, bien sûr que non. C'est vrai que je n'adhère pas à une doctrine, j'adhère à quelqu'un, mais à quelqu'un qui me dit des choses. Jésus n'est pas seulement quelqu'un de formidable, que j'admire, que j'aime, auquel je donne ma vie, c'est quelqu'un qui nous apporte une bonne nouvelle. Vous voyez, il y a un aspect prophète chez Jésus. Si tu savais le don de Dieu, il vient nous confier les secrets du Père. Non pas pour nous remplir la tête d'un tas de vérités nouvelles, mais on n'a pas eu suffisamment de l'occasion de le dire, c'est que ces vérités doctrinales, dogmatiques, le mot dogmatique, vous savez, fait penser à dogmatisme et ça ne sonne pas bien, ces vérités sont indispensables à notre joie. C'est une joie de savoir que le Fils, que c'est Dieu en personne qui a souffert pour moi. C'est une joie de savoir que je suis libre. C'est une joie de savoir vous faites allusion à mon dernier livre qui a été préfacé par le cardinal Barbarin. Peut-on croire à la Providence? Vous avez des chrétiens aujourd'hui qui n'osent plus croire que Dieu mène le monde. Et par conséquent, leurs épreuves, ils ne les vivent plus comme permises par un Dieu d'amour. J'étais hier soir près de Lyon, à Tassin. Il y avait là un tas de personnes qui vénéraient les reliques de Sainte Thérèse. Vous avez des gens qui vénèrent Sainte Thérèse, mais qui n'osent plus penser avec Thérèse que tout est grâce. Que Dieu fait tout concourir au bien de ceux. Vous voyez, si croire à la providence, c'est croire à une vie.
Ces doutes émergent parce qu'aussi on est la vie c'est évident, connaît des grandes épreuves.
Bon, vous savez, au moment de la peste noire au XIVe siècle, les épreuves étaient terribles. Hein. Bien sûr qu'il y a eu la Shoah, mais des épreuves, des tsunamis, des tremblements de terre, prenez les incendies, les pompiers, ça date seulement de d'un siècle pratiquement, des pompiers qui sont toujours, au XIXe siècle, c'était encore des bénévoles qui arrêtaient les incendies. Bon, donc les hommes ont toujours été tentés de croire à la Providence, de ne pas croire à la Providence. Mais je vous signale qu'aucun saint n'a douté de la Providence. Prenez Madeleine d'Elbrel, voilà une battante. Je souhaite qu'elle soit canonisée un jour. Cette femme qui s'est battue dans sa commune communiste. Bon, qu'est-ce qu'elle disait? Nous devrions nous agenouiller tous les matins devant notre journée parce qu'elle est préparée de toute éternité par un Dieu d'amour. Vous voyez, Madeleine d'Elbrel, au cœur de son combat, plein de courage en faveur des pauvres et des autres, était persuadée qu'elle était... Elle dit, j'attends un métro qui n'arrive pas, j'ai un contretemps. Eh bien, tout ça, c'est Dieu qui le permet. Quelle joie quand on y croit tout son cœur. Mais les auditeurs qui m'entendent,
peuvent prier pour que le père d'Escoumont y croit davantage, parce que c'est évident que c'est pas évident. Hein. Moi, j'aime de temps en temps, dans la liturgie, au lieu de dire « Sanctus, Sanctus, Sanctus », j'ai envie de dire « Bizarre, bizarre, bizarre le Seigneur ». Le Seigneur est extrêmement mystérieux. Voyez, il faut sans cesse revenir à cela dans l'enseignement religieux. Enseigner aux enfants de tous les âges et à ceux qui préparent les classes, les grands concours, que Dieu nous dépasse, notre Père qui est aux cieux. Donc ne soyons pas étonnés que Dieu nous dépasse.
Est-ce que vous observez aujourd'hui une forme de retour de ces hérésies du fait de la crise de la foi
C'est évident. Notre crise, la crise de l'Occident, prenez par exemple le 18e. Bon, on revient au siècle des Lumières. Bon, vous savez que toute la bourgeoisie française était devenue voltairienne à la fin du 18e et au début du 19e siècle. Et les historiens pensent que c'est la loi Falloux qui, en instaurant les collèges secondaires catholiques, ont réévangélisé la bourgeoisie française. Je constate qu'elle est en train de redevenir voltairienne. Combien de chrétiens, même parfois qui pratiquent dans les églises, n'osent pas croire que la vérité de la religion chrétienne. Ils sont tentés de penser, avec Voltaire, Jean-Jacques Rousseau ou le philosophe Alain, que toutes les religions se valent. Je les comprends très bien. C'est extraordinaire de croire que Dieu est intervenu d'une façon unique sous Ponce Pilate et non pas sous Pompidou, hein, dans l'Asie et non pas en Europe, que Dieu a choisi le peuple juif et non pas le peuple japonais pour se révéler. C'est énorme de croire à l'incarnation. Aujourd'hui, une grande majorité de chrétiens ne croient plus vraiment à la révélation. Alors ce qui est curieux, c'est qu'ils croient à Lourdes. Ils vont à Lourdes, ils pensent que la Sainte Vierge est apparue à Lourdes. Mais ils ont du mal à croire que Jésus c'est le Fils de Dieu venu sur terre pour toujours.
Voilà de quoi nous interpeller, nous préparer aussi intérieurement à vivre la Semaine Sainte. Nous sommes avec Jean au téléphone. Bonjour Jean.
Bonjour Père, j'écoute avec beaucoup d'intérêt les réponses que vous donnez aux différentes questions et je vais vous en poser une. Chaque jour quand je prie, je demande au Seigneur de me donner la grâce de voir ma fille et mon épouse revenir à lui avant que je ne sois rappelé au Seigneur. Et pourtant, je me pose une question, puisqu'au fond, nous sommes des êtres libres, et cette démarche de foi est une démarche personnelle, et pourtant, la foi, c'est Dieu qui la donne. Oui. Comment peut-on dire qu'à la fois Dieu donne la foi et que c'est une démarche personnelle?
Eh bien, un mystère de plus, vous voyez, dans ma panoplie, à savoir que la foi est 100% un don de Dieu, 100% un acte libre et 100% un acte de l'intelligence. C'est comme une paire de lunettes, si vous voulez, les yeux de la foi, que me donne l'opticien divin, mais je dois accepter de la porter, cette paire de lunettes, et d'en accepter toutes les conséquences pour ma vie pratique. Mais une fois que j'ai cette paire de lunettes, je vois vraiment les choses autrement. Donc on a, je vous posais une question semblable à celle que se posait Luther. Comment un acte bon peut être à la fois un acte libre et le fruit de ma liberté? Alors j'en profite pour vous dire qu'il y a un autre mystère qui est le fait des prières non exaucées. Comment se fait-il que les plus grands saints ont prié avec beaucoup de foi pour des causes très légitimes comme la conversion d'un parent et n'ont pas été exaucées? Alors je vous signale tout de suite que les deux plus grands saints de l'histoire n'ont pas été exaucés. Vous n'y avez peut-être jamais pensé. C'est Marie et Joseph. Ils ont dû beaucoup prier pour la conversion des gens de Nazareth. Or, l'Évangile nous dit que c'est le seul village où Jésus ne put faire aucun miracle à cause de l'incrédulité des gens du coin. Donc, ne vous étonnez pas, cher monsieur, si votre prière apparemment n'est pas exaucée.
En quoi ça aide à vivre parce que...
Ça aide à vivre parce que Dieu, le calendrier de Dieu ne coïncide pas avec le nôtre. Vous voyez, Sainte Thérèse a prié toute sa vie, à la fin de sa vie, pour la conversion d'un magistrat de Lisieux, qui avait épousé l'une de ses petites cousines, René Tostin, un agnostique sympathique. René Tostin est mort agnostique comme il avait toujours vécu. Le curé d'Ars a prié toute sa vie pour la conversion de sa paroisse. À la fin de sa vie, il est tout heureux qu'une mission paroissiale va enfin convertir des gens de son village.
Jean, brièvement, une réaction?
Oui, alors ma réaction, c'est que je ne me désole pas parce que, bien entendu, j'ai confiance, je m'en remets totalement au Seigneur et enfin c'est lui qui décide.
C'est bien.
Merci
bien.
Beaucoup,
vous
Jean.
Un petit exemple magnifique, Élisabeth Le Sœur, une bourgeoise parisienne du début du 19e siècle, avait un mari plutôt incroyant. Mais elle écrivait son journal régulièrement, ce journal dans lequel elle crie « Tout homme qui s'élève élève le monde ». Elle meurt. Son mari découvre le cahier spirituel de sa femme, se convertit, devient dominicain, et le révérend Père Le Sœur a passé le reste de sa vie à prêcher le cahier spirituel de sa femme. Vous voyez, ça, c'est une belle histoire, et c'est pas toujours comme ça. Mais ça montre aussi que le calendrier de Dieu, comme disait un enfant, alors, sa maman lui, alors Jésus, il t'a exaucé? Oui, maman, mais il m'a dit pas tout de suite.
Merci Jean pour votre appel.
Et merci pour votre réponse.
Merci beaucoup à vous. Il y a une auditrice qui pose cette question. Combien y a-t-il de dogmes? Et je voudrais, elle me donne l'opportunité de vous poser la question de la fin, si je puis dire, et de la conclusion. Comment prendre en compte quand on est un croyant et qu'on veut être fidèle, comment ne pas trahir des dogmes? Comment soi,
ben le plus simple, c'est de prendre. On les compte pas parce qu'il y a des dogmes plus ou moins importants. Hein. Il y a une hiérarchie des vérités, comme l'a rappelé le Concile Vatican II. Le plus simple, c'est de prendre le catéchisme de l'Église catholique, ce petit chef-d'œuvre demandé par Jean-Paul II, qui a été réalisé en grande partie par deux cardinaux, le cardinal Schönborn, archevêque de Vienne, et Monseigneur Honoré, qui a été créé cardinal en récompense du travail qu'il avait fait. C'est un petit chef-d'œuvre. Ils ont fait, après Vatican II, ce que Saint Charles Borromée avait fait au XVIe siècle, après le Concile de Trente. J'encourage beaucoup les chrétiens à aller voir le catéchisme de l'Église catholique, qui est tout à fait abordable. C'est vrai que c'est pas un livre d'apologétique, c'est un livre qui présente l'ensemble des mystères de la foi.
Et puis bien sûr, vous pouvez poursuivre aussi dans ce mensuel « Il est vivant » qui consacre son dossier du mois de mars. Faut-il avoir peur des hérésies ? « Il est vivant », vous le trouvez en kiosque dans les librairies religieuses. Et puis vous pouvez également vous renseigner au 01 53 63 00 61. 01 53 63 00 61. Je vous signale que, donc, comme je vous l'ai dit, tout au long de la Semaine Sainte, nous vous proposons dans notre émission une retraite spirituelle autour de la figure de Jésus de Nazareth, vrai Dieu, vrai homme. Nous serons avec le père Henri de Villefranche et nous nous laissons également accompagner par le livre du pape Benoît XVI.
Le carême
sur Radio Notre-Dame.
Il est 11h44 et nous retrouvons la parole de Dieu avec Marie-Noël Tabu.
En marche vers dimanche.
En marche vers dimanche.
Les textes de la liturgie de ce dimanche dans leur cohérence. Aujourd'hui, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu.
Lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même, en prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux. Et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. » Nous connaissons bien ce texte qu'on appelle souvent l'hymne de l'Épître aux Philippiens. On a l'impression que Paul ne l'a pas écrite lui-même. Il cite une hymne que l'on chantait déjà avant lui, habituellement, dans la liturgie. Je ferai deux remarques pour commencer. D'abord, une fois de plus, on est frappé par l'insistance du Nouveau Testament sur le thème du serviteur. C'est un titre qu'on décerne beaucoup à Jésus. Il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Et quand j'emploie ce mot de serviteur, j'ai bien sûr en tête les chants d'Isaïe dont on a lu un en première lecture pour ce dimanche des Rameaux. Il est clair que les premiers chrétiens affrontés au scandale de la croix ont beaucoup médité les chants du serviteur du livre d'Isaïe. Seuls ces quatre textes fournissaient des pistes de méditation possibles pour rendre compte du mystère de ce Messie envoyé de Dieu, mort ignominieusement crucifié. Deuxième remarque, une phrase qui me semble un petit peu ambiguë. Lui qui était dans la condition de Dieu n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Il ne faudrait surtout pas lire. Bien qu'il soit dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon. Je crois qu'en réalité, c'est juste le contraire. Il faut lire « parce que il était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu ». J'y reviendrai tout à l'heure. Plus grave, il me semble que l'une des difficultés de ce texte, un piège peut-être, c'est la tentation que nous avons de le lire en termes de récompense, comme si avec Dieu c'était donnant-donnant. Comme si le schéma, c'était « Jésus s'est admirablement comporté, il n'a rien revendiqué, et donc il a reçu une récompense admirable ». Si j'ose parler de tentation ici, ce qui est quand même un mot fort, c'est que je crois que toute présentation du plan de Dieu, en termes de calcul, de récompense, de mérite, quelque chose qu'il faudrait obtenir à la force du poignet, qu'il faudrait mériter, ce que j'ai envie d'appeler des termes arithmétiques, eh bien tout ça c'est contraire à la grâce de Dieu, puisque la grâce, comme son nom l'indique, est gratuite. Curieusement, nous avons beaucoup de mal avec Dieu à raisonner en termes de gratuité. Nous sommes toujours tentés, et j'emploie le mot tentation encore, de parler de mérite. Mais au fait, si Dieu attendait que nous ayons des mérites, c'est là qu'il faudrait être inquiet. Nous n'avons aucun mérite. Mais la merveille de l'amour de Dieu, c'est qu'il n'attend pas nos mérites pour nous combler. Rappelons-nous l'histoire des ouvriers de la 11e heure. En tout cas, c'est ce que l'Ancien Testament déjà avait découvert grâce à la révélation. Donc je crois que pour être fidèle à ce texte de Paul, il faut absolument s'habituer, ou essayer au moins, de le lire en termes de gratuité. On s'expose à des contresens si on oublie que tout est don gratuit de Dieu. Tout est grâce, comme disait Bernanos. Pour Paul, en tout cas, c'est une évidence que le don de Dieu est gratuit. Or, c'est Paul qui écrit cette lettre. C'est une conviction qui est sous-jacente à toutes ces lettres, et elle est tellement évidente pour lui qu'il ne juge même plus utile de la repréciser. C'est peut-être là que nous sommes gênés. J'essaye de résumer la pensée de Paul. Le projet de Dieu, son dessein bienveillant, comme dit Paul, c'est de nous faire entrer dans son intimité, son bonheur, son amour parfait. Ce projet est évidemment absolument gratuit, puisque c'est un projet d'amour. Ce don de Dieu, cette entrée dans sa vie divine, il nous suffit de l'accueillir avec émerveillement, tout simplement. Pas question de le mériter, c'est cadeau, si j'ose dire. Avec Dieu, tout est cadeau. Mais nous nous excluons nous-mêmes de ce don gratuit si nous adoptons une attitude de revendication. Si nous nous conduisons à l'image de la femme du jardin d'Éden, elle prend le fruit défendu, elle s'en empare, comme un enfant chippe à l'étalage. Jésus-Christ, au contraire, n'est que accueil, ce que saint Paul appelle obéissance, je reviendrai à ce mot tout à l'heure. Et parce qu'il ne sait que accueillir le don de Dieu et non pas le revendiquer, il est comblé. Lui qui était de condition divine n'a pas jugé bon de revendiquer. Mais évidemment, au fond, si on y pense, c'est justement parce qu'il est de condition divine. Lui, il sait ce que c'est que l'amour gratuit. Il sait très bien que l'amour ne se revendique pas. Alors il ne juge pas bon de revendiquer le droit d'être traité à l'égal de Dieu. Et pourtant, c'est bien ça que Dieu veut nous donner, mais nous donner comme un cadeau. Et c'est cela qui va lui être donné en définitive. J'ai envie de faire un rapprochement avec l'évangile des tentations qu'on a lu pour le premier dimanche de carême. Dans l'évangile de tentation, le diviseur, c'est le sens du mot diabolos, diable en grec, le diviseur ne propose que des choses qui font partie du plan de Dieu pour son Messie. Mais Jésus refuse de s'en emparer. Il compte sur son Père pour les lui donner. Vous vous rappelez, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. C'était ça que devait recevoir le Messie. Mais Jésus sait que c'est de son Père qu'il les obtiendra, et de personne d'autre. Le tentateur lui dit encore, si tu es le Fils de Dieu, mais tu peux tout te permettre, ton Père te refusera rien, transforme les pierres en pain quand tu as faim, jette-toi en bas de la montagne, il te protégera. Jésus attend tout de Dieu seul. Il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est justement le nom de Dieu. Dire de Jésus qu'il est Seigneur, comme dit Paul, c'est dire qu'il est Dieu. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le titre de Seigneur était réservé à Dieu. La génuflexion aussi, d'ailleurs. Quand Paul dit « afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse », c'est une allusion au prophète Isaïe qui disait, de la part de Dieu bien sûr, devant moi tout genou fléchira et toute langue prêtera serment. C'était Isaïe 45, verset 23. Jésus a vécu toute sa vie d'homme dans l'humilité et dans la confiance, même quand le pire est arrivé, c'est-à-dire la haine des hommes et la mort. J'ai dit confiance. Paul, lui, emploie le mot obéissance, mais c'est la même chose. Obéir, oba audire en latin, c'est littéralement mettre son oreille, audire, devant, ob audire, la parole. C'est l'attitude d'un dialogue parfait, sans ombre. C'est l'attitude de confiance totale. Si on met son oreille devant la parole de quelqu'un, c'est parce qu'on sait que cette parole n'est qu'amour. On peut l'écouter sans crainte. Et l'hymne se termine par « Toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père, c'est-à-dire pour la manifestation de l'amour infini de Dieu. »
Et c'est la fin de notre matinée autour de cette question des hérésies. Je vous renvoie bien sûr à ce magazine. Il est vivant, disponible en kiosque. Je vous rappelle ce numéro de téléphone 01 53 63 00 61. Et vous y retrouverez d'ailleurs le père d'Escouvement qui y signe un article. Demain, eh bien, nos invités nous feront plonger dans le combat contre la drogue. Famille, ancien toxico témoigne comment l'exigence de la foi permet de sortir de la drogue. Nous serons notamment avec le frère Ambroise Pic, frère de la communauté Saint-Jean. Il est responsable de Saint-Jean-Espérance qui accueille des jeunes pour les libérer de la drogue et ça marche. Alors bien sûr, si vous avez encore une fois des questions, des témoignages, des situations que vous souhaiteriez nous évoquer, n'hésitez pas à être avec nous. C'était à partir de 10h45 demain.
Être croyant, c'est forcément être contre la science ? Pas si sûr. Chaque semaine, dans Penser la science, David Mascret s'emploie à prouver le contraire et avec des invités de renom, fait rimer la foi avec l'intelligence. Pensez la science, chaque jeudi à 17h.
Or ou métaux précieux, vous possédez peut-être des bijoux, montres, diamants dont vous souhaitez vous séparer.
À Paris, dans le 6e arrondissement, Recyclor achète en toute discrétion vos valeurs. Lingots, pièces cotées, diamants, platines, bijoux, montres, débris, ainsi que l'argent sous toutes ses formes.
Règlement immédiat après estimation, expertise gratuite.
Recyclor, 29 rue des Saints-Pères à Paris, dans le 6e. 01 42 60 24 24. 42 60 24 24.
Recyclor,
nous donnons un prix à vos valeurs.
Votre sécurité, oui, mais à quel prix ? C'est pourquoi les établissements Marco proposent le blindage de votre porte pour 520 euros, main-d'œuvre comprise. Une serrure avec 7 points agréés assurance, une tôle de blindage en fer, plus une cornière anti-pied de biche.
Alors, pour votre sécurité et celle de votre porte-monnaie, demandez votre devis gratuit sur place ou par téléphone aux établissements Marco. 01 43 73 52 57. 43 73 52 57. Possibilité de paiement plusieurs fois. Les établissements Marco sont agréés par l'Association française des consommateurs.
Vous recherchez une complémentaire santé qui assure vraiment, sans questionnaire de santé, sans limite d'âge, avec des remboursements aux frais réels dans la quasi-totalité, des forfaits optiques et dentaires jusqu'à 650 euros?
Vous venez de la trouver. AFA Assurance vous offre des garanties réellement adaptées à vos besoins, sans délai d'attente et des remboursements directs auprès de professionnels de santé.
AFA Assurance, parce que votre santé mérite ce qu'il y a de meilleur. AFA Assurance,
01 55 85 07 45
55 85 07 45.
RadioNotre-Dame.com vous invite sur le net. 24 heures sur 24, écoutez nos programmes, consultez-les en détail et correspondez avec nos animateurs. Profitez de notre sélection de livres et de disques et commandez-les d'un simple clic. Radio Notre-Dame sur Internet, c'est aussi l'état de la circulation en Île-de-France et les prévisions météo détaillées. RadioNotre-Dame.com vous permet également d'être en lien direct avec le Vatican, l'Église catholique de France et votre diocèse. Radio Notre-Dame sur Internet, www.radionotredame.com.
Radio Notre-Dame.
L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie.
Et elle conçut du Saint-Esprit.
Voici la servante du Seigneur.
Qu'il me soit fait selon votre parole.
Et le Verbe s'est fait chair.
Et il a habité parmi nous.
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu.
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
À l'instant, c'était la prière de l'Angélus. Vous retrouvez à 14h45 la messe des malades en direct de la basilique Notre-Dame des Victoires et à 14h30 l'entretien du cardinal. Tout de suite, il est midi, place à Fréquence Protestante. Très bon appétit à vous, bonne journée.
Radio Notre-Dame. Nouvelles de l'Église universelle. Anne Dallaire.
Bonjour à tous, Japon. Lors de la conférence de presse consacrée aux nouvelles normes des procès en canonisation et béatification, le cardinal Martins a confirmé la béatification des 188 martyrs japonais au Japon le 24 novembre prochain. C'est là l'aboutissement d'une requête présentée au pape en 96 lors du 400e anniversaire des martyrs de Nagasaki. Cette béatification revêt une grande importance pour l'Église du Japon car elle est la première dont la cause a été promue par les évêques du Japon. En annonçant il y a 10 ans l'ouverture de ce processus, le cardinal Amao avait déclaré « Bien que plusieurs d'entre eux étaient des samouraïs et connaissaient l'art de se battre, ils ont choisi la voie de la résistance non violente et c'est notamment cela qui revêt une signification spéciale pour les hommes de notre époque. Selon lui, il est hautement significatif que ces 188 martyrs soient en majorité des laïcs. En effet, ces béatifications sont porteuses d'un message pour tous les Japonais et pas seulement catholiques, car elles mettent en valeur le fait que le droit de croire en une religion est un des droits fondamentaux de l'être humain. Au XVIIe siècle, ce droit n'était pas reconnu et le gouvernement a persécuté des Japonais pour cela. Aujourd'hui, dans le Japon contemporain, si la liberté de croire est totale, ce droit étant inscrit dans la loi, il n'en est pas pour autant pleinement reconnu par l'opinion, car les gens ne le voient pas comme un droit fondamental. Ils pensent que la religion relève du domaine de la famille et non de la liberté de l'individu. La religion au Japon est vue comme une affaire de tradition familiale. Ainsi, ces béatifications pourront peut-être, par l'écho que les grands médias en donneront, permettre aux Japonais de mieux comprendre ce qu'est le christianisme. Les chrétiens sont respectés au Japon et beaucoup envoient leurs enfants dans les établissements catholiques, mais aujourd'hui, nombreux sont ceux qui voient dans le christianisme une religion très bonne, mais très stricte. Là où les catholiques vont à la messe tous les dimanches, les bouddhistes ne doivent qu'une visite par an au temple. Turquie. Le Parlement turc a adopté pour la seconde fois un projet de loi visant à étendre les droits de propriété des petites communautés chrétiennes et juives, une demande clé de l'Union européenne dans le cadre de l'adhésion turque. L'ancien président turc avait mis en novembre 2006 son veto à ce projet de loi adopté par le Parlement en octobre de la même année. Le 20 février, ce projet a été approuvé par 242 parlementaires sur 314 présents. Ce projet de loi ouvre la voie à la récupération par les fondations communautaires, principalement grecques, arméniennes et juives, de certains biens saisis par l'État depuis 1974 au terme